Père Gilles François, vous êtes actuellement président de l'Association des Amis de Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel, comment est-ce qu'elle nous donne aujourd'hui une impulsion pour ces milieux en marge de l'Église, les banlieues? Elle était dans les banlieues défavorisées. Comment est-ce que l'Église peut s'inspirer, peut prendre chez Madeleine Delbrel cette impulsion pour aller au-delà? Au-delà des frontières, aux frontières de l'Église.
Oui, elle a une parole. Elle est suivie par beaucoup de gens, parce que nous avons énormément de témoignages, souvent dans une certaine solitude. En fait, son expérience, ce qu'elle nous dit, c'est que la route que nous montre le Seigneur, je vais montrer ça par deux images. L'image de la spiritualité du vélo. Alors, vous êtes en vélo, c'est l'élan de charité. Bon, vous avez de l'amour, bon, vous y allez. Et c'est en pédalant, en mouvement, qu'on tient en équilibre. L'équilibre, il se trouve dans le mouvement seulement. Voilà. Il faut que le vélo avance pour qu'il tienne, sinon il ne tient pas debout. Et comment voit-on? Eh ben, elle dit, c'est en faisant les choses, au fur et à mesure, que ça s'éclaire. Faites chaque chose, et alors ce sont comme des étoiles qui s'éclairent dans la nuit, et l'itinéraire nous est offert par cela. Et c'est comme ça qu'on peut aller, y compris dans des milieux complètement déchristianisés, portant cet amour en nous, vivant cet amour intérieur, et le Seigneur nous montre au fur et à mesure. Donc elle a ce sens-là, spiritualité du vélo, vous trouvez ça dans le tome 3 des œuvres complètes qui s'appelle « Humour dans l'amour ». Une autre image qu'elle a, ce sont les deux abîmes. Imaginez que vous êtes en montagne, il y a un chemin sur la crête, et ça descend à gauche, et ça descend à droite, et c'est la crête, et vous restez sur la crête. Si vous descendez sur la droite ou sur la gauche, il y a du danger ou de l'appréhension ou de la peur. D'un côté, ce sont les abîmes mesurables des refus de Dieu. Et de l'autre côté, ce sont les abîmes insondables des mystères de Dieu. Et alors, curieusement, elle dit qu'on reste sur la crête. C'est ça la mission, c'est ça d'aller vers les gens. Elle ne se laisse pas plonger dans les mystères insondables de Dieu. Elle dit qu'il faut rester sur la ligne de crête pour qu'au fond, ceux qui sont dans le refus de Dieu puissent nous voir, puisqu'on est sur la ligne de crête. Et ils comprennent que nous marchons sur cette ligne et qu'il y a quelque chose, un abîme là qui est insondable, l'abîme de l'amour de Dieu, des mystères de Dieu. Alors ce sont des images, de même que ces noces mystiques, vécues en 1930 et dont elle a dû vivre toute sa vie jusqu'au bout, ça j'en doute pas, montrent que cette union au Christ était tellement en elle qu'elle pouvait avancer comme ça sur cette ligne de crête pour que ceux qui sont dans le refus de Dieu puissent la voir.
Elle était hantée par ceux qui étaient dans le refus de Dieu.
Oui. Et parce qu'elle-même avait vécu cet athéisme très très profond, très radical, et elle avait l'expérience de ce que c'est que cette absence de Dieu, ce désespoir rationnel. Je repense à Albert Camus ou des gens comme lui expliquent bien cela. C'est pas un désespoir paralysant, mais il n'y a pas d'espoir en Dieu ou en un au-delà. Alors c'est pour ça que elle avance. Et j'ai longtemps cru que Madeleine Delbrel c'était une spiritualité de l'enfouissement. Il faut s'enfouir dans un milieu pour qu'on nous voit pas et qu'un jour les gens comprennent que c'est parce qu'on croit en Dieu qu'on est comme ça. Mais en fait non, pas du tout. Elle a vraiment le sens de la gloire de Dieu. Simplement, qu'est-ce qui s'enfouit? C'est la parole de Dieu qui s'enfouit au plus profond de nous et qui fait que Dieu a un élan vers tous les hommes. Et ça, c'est son projet, c'est son plan, il nous le dit, c'est dans l'Évangile. Alors souvent, nous comprenons la mission comme une espèce de volontarisme, où c'est moi qui vais aller dans un milieu où Dieu n'est pas, etc. Non, elle a quelque chose de beaucoup plus ordinaire, justement. Dans toutes nos familles, dans tous nos milieux professionnels, on est au quotidien avec des gens qui connaissent pas Dieu, qui croient pas en Dieu, ou qui sont révoltés aussi, ça peut être différentes choses. Et elle a un immense respect pour chacun.
Et elle parle aussi de la veillée d'armes.
Ah, la veillée d'armes, oui. Alors, ça, c'est...
À quoi ça correspond, cette veillée d'armes?
En fait, elle était assistante sociale. Comme assistante sociale, elle a découvert, elle a concrétisé, c'est une compétence qui la porte vers ces milieux très appauvris, et en particulier appauvris par la guerre, par la crise économique de la fin des années 30 et par la guerre. Et elle écrit un livre qui avait été oublié, que nous avons republié l'an dernier, qui s'appelle « Veillée d'armes ». Cette veillée d'armes, c'est notre guerre de femmes. Après le désastre militaire, qui est un désastre d'hommes, les hommes ont perdu la guerre, alors nous on est là, et puis nous les assistantes sociales, les travailleuses sociales, les mères de famille aussi, il faut qu'on tienne le pays. Voilà, elle réfléchit comme d'autres réfléchissent au relèvement de la France, et ce sont ça nous offre des textes magnifiques que je trouve très mystiques, au sens que où la politique elle-même est une mystique. parce que c'est une œuvre, c'est un plan humain, mais si on regarde vers l'avenir, c'est un plan de Dieu, c'est un plan de la création restaurée, retrouvée, embellie, accomplie par l'homme avec Dieu. Et là, cette mystique, elle écrit merveilleusement bien des lignes sur la façon d'aller chez les gens, la façon d'être reçu, de ne pas s'imposer, mais en même temps de valoriser chacun dans les familles, valoriser les jeunes, valoriser les pères de famille, les mères, valoriser la vie des quartiers, la vie stable dans un quartier. J'étais avec un ami à Rome ici même, qui m'a expliqué qu'il connaît des Roms depuis 20 ans. Il les a connus enfants. Et je vois bien. On est allé prier ensemble et il y a un de ces Roms qui était venu prier avec nous, un jeune homme qui doit avoir 25 ans maintenant, donc il l'a connu tout gamin. C'est les stabilités, voilà. Et là, c'est ça la veillée d'armes. C'est-à-dire que on comprend, on se recueille sur soi, on se recueille ensemble pour identifier toute cette humanisation qui se fait dans le quotidien, de notre engagement, de notre vie. Par exemple, dans ce fameux veillée d'armes, il y a une perle à propos de l'humilité. Elle dit « Humilité, de garder confiance en soi » quand on a fait une grosse gaffe. Je trouve ça très drôle et très vrai. C'est-à-dire des fois, quand on a fait une grosse gaffe, on a en plus un petit brin d'orgueil mal placé qui fait qu'on s'en replie sur soi et on n'ose plus. Vous savez, quand on a fait une grosse gaffe, surtout ce qui est important, c'est de continuer la route. Et ce livre, Veillée d'armes, est plein de ça.
Comment est-ce que Madeleine Delbrel vivait ses rapports avec la hiérarchie masculine, avec les prêtres?
Oui, elle est environnée de prêtres, à commencer par l'abbé Lorenzo, Laurent Monnier, mais aussi Monseigneur Veuillot, qui était à la secrétairie d'État à l'époque, et beaucoup d'autres, les curés de paroisse, qui n'étaient pas toujours faciles, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que faisaient ces femmes, qui n'étaient pas des religieuses, qui étaient des laïcs, qui travaillaient avec les communistes, vraiment, c'était pas très facile. Et puis, elle voit aussi que le rapport homme-femme a besoin d'être approfondi et d'être nourri. Alors, il y a un très très bel article d'elle que nous ferons paraître en 2010, qui s'appelle « La femme, le prêtre et Dieu ». Et elle comprend cette présence féminine à la fois épouse et mère, où l'âme était à la fois épouse et mère, et que si l'âme est épouse et mère, c'est vrai pour tous. C'est donc vrai aussi des hommes. Donc elle comprend comment une vocation féminine laïque nourrit toute l'Église, et en particulier aide les prêtres à être à leur place. Les prêtres peuvent avoir un défaut de se mettre partout, comme aussi d'ailleurs les laïcs, parfois ils ont ce gros défaut de se mettre partout. Alors, elle comprend la complémentarité de chaque vocation. Et elle comprend qu'à un moment donné, tout se joue au plan de la foi, comme une annonciation. Mais comment cela va-t-il se faire? Elle comprend qu'en Jésus, il y a du masculin et du féminin. C'est une page très très étonnante dans ce qu'elle appelle le possible de Dieu, donc dans cet article, La femme, le prêtre et Dieu, publié en 1950 dans le supplément de la vie spirituelle. Elle dit que en Jésus, c'est Jésus, homme parfait, tout s'accomplit en lui, et y compris il y a quelque chose d'à la fois féminin et masculin. Alors moi je suis assez étonné, parce que les psychologues le disent, qu'il y a dans l'homme du féminin et du masculin. Alors c'est le masculin qui remplit, et dans la femme il y a du féminin, mais aussi une part de masculin, ce qui fait qu'on est appelé à se compléter. Alors elles sont restées laïques, elle ne le dit pas, mais j'ai parfois l'impression qu'elle a une vision des femmes qui fait que chacune est un peu déjà prêtre, au fond. Chacune est médiatrice de par cette force d'engendrement qui est dans sa structure physiologique, psychologique. Et ça, moi, je m'en rends compte fréquemment. Moi, qui suis curé de paroisse, je vois à quel point les femmes avec qui je travaille nous aident à nous remettre dans quelque chose de plus concret, de plus réel. Alors que nous, les hommes, on va partir au combat, on va plutôt, comme dans la veillée d'armes, on part à la bataille. Parfois, on risque d'idéologiser les choses. Les femmes sont plus directement dans cette dimension d'engendrement. D'ailleurs, je constate que c'est quelque chose qui se développe, qui se cherche aujourd'hui, une pastorale d'engendrement, et que ça a encore plus d'importance aujourd'hui, où on a un maillage paroissial qu'on ne peut plus tenir comme on le faisait dans le temps. C'était une pastorale d'encadrement que nous avions. Je ne sais pas si on pourra toujours faire ça. Par contre, si on comprend que nous sommes dans une pastorale d'engendrement, qui est très proche au fond d'une méditation, de l'annonciation, comment cela va-t-il se faire? L'ange s'est approché de Marie, comme l'ange s'approche de chacun de nous. Et c'est la parole de Dieu qui descend au plus profond de nous, jusqu'à second ou pivote tout nous-mêmes, comme dit Madeleine. Et ça, c'est ce qui libère une force d'engendrement dans chacun de nous. Parce que l'âme, en français, l'âme est au féminin. Et donc peut-être c'est ce côté féminin que Madeleine comprend et qu'elle voit présent en Jésus.